Voilà, c'est toujours un culte spécial en rapport aussi avec la préservation de la nature. On m'a conseillé de prendre, dans le cadre de culte spécial, normalement, on nous donne aussi quelques informations pour peut-être référer un peu même le message à apporter. Mais je n'ai pas pris la parole d'Amos, j'ai pris aussi un autre sujet, mais qui a aussi un rapport avec ça, c'est la responsabilité de l'homme par rapport à la souveraineté de Dieu. Responsabilité de l'homme par rapport à la souveraineté de Dieu. Pour mieux expliquer de cela, je vais peut-être commencer par un exemple. Vous savez, imaginons un peu un homme, un agriculteur, qui cultive ses terres avec sérieux, avec diligence. Et un jour, qu'il est en train de labourer son champ, il se met à prier à Dieu, en disant, « Seigneur, bénis la récolte, bénis, donne de bonnes conditions météorologiques pour que voilà, ce que je fais soit fructueux. Et donne aussi de la pluie au bon moment aussi, le soleil au bon moment aussi. De faire prospérer mon travail. » Oui, effectivement, il avait une foi profonde en la souveraineté de Dieu. Il était convaincu que Dieu contrôle toutes choses, y compris les éléments de la nature. Cependant, cet homme agriculteur ne s'arrête pas là. Après sa prière, bien sûr, il continue à labourer, à semer, à entretenir son champ avec soin et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une bonne récolte. Il sait que Dieu est souverain, mais il sait aussi qu'il a une responsabilité en tant qu'agriculteur pour faire les choses qu'il doit faire. Il sait qu'il doit faire sa part pour que sa récolte soit réussie. Cette histoire, enfin c'est une histoire inventée, hein, je me suis dit, voilà, il faut quand même une petite histoire pour mieux comprendre la souveraineté et aussi par rapport à la responsabilité de l'homme. Cette histoire met en lumière la tension quand même qui existe, que nous allons explorer tout à l'heure. On voit d'un côté, nous avons la conviction que Dieu est souverain, et qu'il gouverne l'univers, et qu'il est au contrôle de toutes choses. C'est une vérité fondamentale de notre foi chrétienne. D'ailleurs, dans Psaume 103, il est dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Il domine non pas seulement sur nous, sur notre petite vie, sur la terre, mais aussi dans l'univers entier, sur toutes choses. Et d'un autre côté, nous savons aussi que nous avons cette responsabilité envers tous, envers Dieu, envers les autres aussi, envers la nature. Dieu nous a confié le libre arbitre, la capacité de prendre des bonnes décisions, en tout cas la capacité de prendre des décisions, ça ne peut pas être forcément des bonnes décisions, malheureusement. Et aussi nous sommes appelés à agir de manière responsable, à prendre soin de la création, etc. Et je vous disais qu'il y a quand même une tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Pourquoi ? Parce que on peut se demander, je donne un exemple, on demande à Dieu quelque chose, et il arrive aussi que cet homme qui a demandé quelque chose à Dieu ne fasse rien. Il attend que Dieu réalise sa demande, qu'il exauce sa demande. Parce que pour lui, faire quelque chose, c'est comme si on n'avait pas confiance en Dieu. C'est comme s'il manquait de foi. Il pourrait y avoir ce genre de tension qui existe. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Donc cette tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme est une réalité biblique et théologique que nous devons voir, penser plus en profondeur. Et tout d'abord, j'aimerais quand même vous parler de la souveraineté de Dieu, avant de continuer. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est un concept fondamental de la théologie chrétienne et affirme que Dieu est souverain. Il est souverain suprême. Il contrôle toutes choses dans l'univers. Cela signifie que rien ne se produit en dehors de la connaissance, de Dieu, de la volonté de Dieu, du pouvoir de Dieu. C'est quelque chose qu'on doit quand même prendre en compte. Dieu est le créateur de toutes choses et il gouverne l'univers, toutes choses. Comme je vous avais dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Non seulement il contrôle sur toutes choses, mais aussi il contrôle sur l'histoire de l'homme. Il guide les événements et les destinées des nations selon sa volonté. Si on regarde un petit peu l'histoire de la Bible, on voit bien que Dieu a intervenu dans toutes les facettes de l'histoire de l'homme. Et là, peut-être, les gens pourraient se demander, mais si Dieu contrôle l'histoire, pourquoi il y a tant de malheurs? Les gens pourront se dire ainsi. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a autant de génocides? En ce moment-là, tout à l'heure, j'ai partagé avec Suri qui me disait qu'en Arménie, en ce moment, c'est l'épuration ethnique qui se fait et qui se pratique. Il y a des décapitations des enfants qui se fait aussi en ce moment. Donc, pourquoi il y a autant de malheurs? Si Dieu contrôle l'histoire humaine, il y a la souveraineté de Dieu. Comment penser à ça? Oui, effectivement, on peut penser que Dieu permet le mal qui est entré depuis la chute de l'homme. Et je ne peux pas, en tout cas, donner toute la réponse, mais d'après l'histoire de Job, Dieu permet, jusqu'à une certaine limite. Dans cette souveraineté de Dieu, ce qu'on peut savoir, c'est que, d'après la Bible, rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Il est omniscient. Il connaît toutes choses, les choses du passé, du présent et du futur. Dans Psaume 139, il est dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Et puis, il y a aussi la providence divine, c'est-à-dire sa capacité à pourvoir aux besoins de sa création et à guider les événements de manière à accomplir ses desseins. Dans Romains 8, il est dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En résumé, la souveraineté de Dieu est un principe central de la foi chrétienne. Elle signifie que Dieu est souverain, suprême, qui contrôle l'univers, qui gouverne l'histoire humaine, qui connaît tout et agit selon sa volonté souveraine. Voilà la souveraineté de Dieu. Alors qu'en est-il de la responsabilité de l'homme? Vous savez que la responsabilité de l'homme est un concept important aussi dans la foi chrétienne. C'est vrai, Dieu nous a confié à l'homme le libre arbitre, la capacité de prendre des décisions. Cela signifie que l'homme est appelé à exercer un certain contrôle moral sur ses actions, à faire des choix conformes à la volonté de Dieu et à assumer les conséquences de ses actes. Oui, Dieu nous a fait non pas comme des robots, mais un être vivant qui a la capacité de choisir et de prendre des décisions. Dans Deutéronome 30, 19, il est dit que « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il y a des choix à faire. Il y a des décisions importantes à prendre devant nous. Devant toutes ces décisions à prendre, de tous ces choix que nous devons faire, le Seigneur nous a donné cet libre arbitre. Et lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, nous pouvons justement être... Si nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons aussi obéir. Dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais après, on peut choisir aussi le mal. Dans ce cas-là, il faut aussi assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité de l'homme implique également vraiment d'assumer les conséquences de ses décisions et de ses actions. Dans verset Galates 6, il est dit que « Ne vous y trompez pas, On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Il moissonnera. Nous moissonnerons aussi selon la semence que nous avons donnée. Et puis dans cette responsabilité de l'homme, on peut encore réfléchir sur la responsabilité de prendre soin de la création, puisque Dieu a aussi également à l'homme, a confié à l'homme la responsabilité de prendre soin de la création, y compris de la terre, des animaux et aussi de l'environnement. L'homme est appelé à être un gardien de la création de Dieu. Tout à l'heure, Mylène a bien parlé sur ce sujet-là. Dans Genèse 2:15, il est dit aussi que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà donc sur la responsabilité de l'homme que nous avons pu réfléchir un peu sur les différents points. Et comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir une certaine tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Je m'explique. Sachant la volonté, connaissant le plan de Dieu, parfois, il y a une certaine responsabilité de l'homme qui intervient. Je donne un exemple biblique qui illustre bien cette tension qui existe entre l'histoire, enfin, qui existe entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Sur l'histoire de Joseph, dans le livre de Genèse, dans cette histoire, les frères de Joseph, qui étaient jaloux de Joseph, le vendent comme esclave en Égypte par jalousie. Et plus tard, Joseph devient, vous connaissez cette histoire, devient un homme puissant en Égypte, le premier ministre. Et lorsque ses frères le rencontrent à nouveau, ils voient qu'il a réussi et que grâce à lui, toute la famille peut être sauvée. Mais ils craignent aussi, ses frères qui l'ont vendu, craignent des représailles. Et Joseph leur dit ceci dans Genèse 50:20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nombreux. Voilà un peu la tension qui peut exister entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme. Est-ce que vous arrivez quand même à suivre? Oui, un petit peu. Peut-être je pourrais encore vous donner un petit exemple. Un exemple de Néhémie. Vous connaissez l'histoire de Néhémie? Oui, un petit peu. Enfin, au moins pour ceux qui connaissent bien le livre de Néhémie. On voit au début du livre Néhémie qui apparaît et il est assez triste parce qu'il apprend que Jérusalem est dans un état de ruine. Vous savez, Néhémie était parti en déportation par la puissance babylonienne et il était embauché là-bas, il travaillait bien, enfin il était les chansons du roi de Perse, et là, à ce moment-là, il apprend que Jérusalem est dans un état de ruine et que les murs de la ville sont détruits. Alors, il a été bouleversé profondément. Et il savait très bien la volonté de Dieu que les Israélites qui étaient partis en déportation, qu'ils allaient revenir et que Dieu allait le restaurer. Il connaissait le plan de Dieu. Alors, il jeûne devant cette triste nouvelle, il prie, il cherche Dieu pour obtenir de la direction, qu'il puisse restaurer le pays. Et devant cette prière de Néhémie, d'imploration à Dieu, Dieu transforme cette situation. Et lorsque, après avoir prié pendant 4 mois, Néhémie se présente devant le roi pour exposer les faits. Et le roi de Perse est assez favorable pour que Néhémie retourne là-bas et qu'il construise les murs de Jérusalem. Et là, on pourrait se dire que voilà, le plan se réalise, Dieu reste souverain, Dieu, dans sa souveraineté, il inspire le roi de Perse pour réaliser son plan, c'est-à-dire reconstruire, et remettre son peuple dans la mouvance pour qu'ils aient de nouveau une bonne relation avec le Seigneur. Eux, ils étaient avant eux qui étaient idolâtres, maintenant, c'est le temps de restauration pour le peuple de Dieu. On pourrait se dire ça. Et si nous regardons dans le chapitre de Néhémie 3, c'est le chapitre où on parle de la reconstruction des murs de Jérusalem. Et là, on voit Néhémie décrit en détail la manière dont différents groupes de personnes travaillent ensemble pour reconstruire les murs de Jérusalem après le retour des exilés juifs de Babylone. Là, on voit les prêtres, les lévites, les chefs de famille, les artisans et les habitants de Jérusalem travaillent côte à côte pour restaurer les murs. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu, puisque dans le chapitre 4, on voit une certaine opposition à la construction et aussi à la préparation de la défense. Dans le chapitre 4, Néhémie décrit aussi les défis auxquels sont confrontés aussi les ouvriers lors de la reconstruction des murs. Ses ennemis sont présents, ils veulent vraiment saboter leur projet. Alors que Néhémie connaissait très bien que c'était le plan quand même de réaliser, de reconstruire les murs, il y a des oppositions, les forces de l'opposition qui est présent. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu se dire, moi je crois à la souveraineté de Dieu, donc je laisse tout entre les mains du Seigneur, et puis on va voir comment ça va être fait. En fait, Néhémie, il prie à Dieu et il établit une garde jour et nuit pour défendre contre toutes ces attaques possibles. Il y a la souveraineté de Dieu, mais aussi il y a l'effort à fournir pour réaliser aussi le plan de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Oui, parfois on peut aussi prier. Seigneur, réalise ceci parce que je sais que c'est ta volonté. Et puis, il y a des gens qui ne font pas d'efforts pour réaliser le plan de Dieu. Là, ils n'ont pas forcément pensé à la responsabilité de l'homme par rapport au plan de Dieu. Alors, le temps passe vite. Je vais essayer de conclure. Il est important, je disais qu'il y a il peut y avoir une certaine tension entre la souveraineté de Dieu et aussi la responsabilité de l'homme. Je pense qu'il est important tout d'abord de connaître la volonté de Dieu. Comment on pourrait continuer le plan de Dieu si on ne connaît pas la volonté de Dieu? C'est pour ça que nous devons vraiment, toujours en relation avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation des Écritures, pour connaître. C'est comme ça que nous pouvons avoir cet équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et cela nous encourage, en tout cas, nous les croyants, à prendre des décisions responsables et aussi à agir avec intégrité. Le fait que Dieu soit souverain ne signifie pas que nous pouvons agir de manière irresponsable, immorale. Au contraire, cela devrait nous inspirer à agir de manière juste, éthique, sachant que Dieu voit tout, Dieu voit tout. Et que Dieu promet de donner de la sagesse aussi à ceux qui la recherchent dans Jacques 1, et qu'il est aussi notre refuge en période de trouble dans Psaume 46. C'est ainsi que, voilà, en fin de compte, pour avoir une vie dans l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, il faut bien sûr avoir la foi en Dieu, mais aussi contribuer davantage pour dans les actes. Cela signifie que nous faisons de notre mieux pour prendre des décisions éclairées et justes, tout en ayant confiance que Dieu est au contrôle et que ses desseins souverains prévaudront. Cette tension nous rappelle que nous sommes des partenaires dans l'œuvre de Dieu, dans le monde, appelés à agir avec prudence, humilité et confiance en Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, l'histoire de Néhémie nous rappelle que tout d'abord il faut être conscient, proche de toi, même parfois il faut jeûner, prier, méditer ta parole pour connaître ton plan à notre égard, à l'égard de ce monde. Mais en même temps, une fois que nous avons su ta volonté, tu nous invites aussi à agir pour réaliser, pour être participant à ton œuvre. Seigneur, je me rappelle aussi cette histoire du roi Ézéchias qui tombe gravement malade, qui est sur le point de mourir, et le prophète Ésaïe qui vient lui annoncer la nouvelle de sa mort imminente. Ézéchias, devant cette triste nouvelle qui a été tellement troublée, il se met à genoux pour prier devant toi. Et là, il demande, dans ta souveraineté, d'agir en sa faveur, en disant, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait, de ma fidélité envers toi. Et après avoir vu, entendu sa prière, Dieu agit en sa faveur. Il lui accorde 15 ans de plus supplémentaires. Et pour confirmer ce miracle, Dieu même fait reculer l'ombre sur le cadran solaire, Seigneur. Quel événement incroyable. Et ce qui est encore incroyable, c'est qu'il y avait ce moment où il faisait confiance totalement à la souveraineté de Dieu, mais en même temps, il a aussi agi pour que... il a aussi fait en sorte que Ésaïe mette une masse de figues qu'on a étendue sur l'ulcère. Et c'est ainsi que Ézéchias a survécu de sa maladie pendant 15 ans. Il y a une certaine part de responsabilité que nous devons assumer, que ce soit dans la vie familiale, dans mon rapport avec toi, avec les autres, mais aussi dans le rapport avec la nature. Tu nous as aussi appelés à être des gardiens, celui qui gère ce trésor, cette nature. Seigneur, aide-nous vraiment à être plus responsables de ce que nous faisons, et aussi penser à cette responsabilité et les conséquences, Seigneur. Que ta volonté se fasse, et que nous puissions être dans cette volonté de Dieu, Seigneur, en étant participants à ton œuvre. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.